Loïc Tassé, bonjour.
Bonjour Bernard.
Alors, tu vas nous parler un petit peu de la couverture médiatique de la visite de François Legault en France.
Un tout petit peu.
Il
n'y en a pas eu.
Tu vas nous en parler un tout petit peu?
Il n'y en a pas eu.
Il n'y a pas de...
Non,
les Français ne s'intéressent pas à notre premier ministre.
J'ai regardé en ligne le Nouvel Obs, rien. Le Figaro, rien. Le Monde, rien. La Croix, l'Humanité, RFI, l'Express, le Parisien, rien. C'est même pas dans un coin quelque part. Les seuls qui en ont parlé, vraiment, c'est TV5 et puis un quotidien qui s'appelle L'Opinion. Là, il y a une longue entrevue de François Legault. Et puis, Le Point et Paris Match ont repris des dépêches de l'agence France Presse.
C'est ça.
Mais c'est tout.
Tu vois, moi, on m'informe, là, on me glisse à l'oreille que effectivement il y a tellement d'actions présentement en France que les médias se nourrissent avec les dépêches de l'AFP.
Oui, alors, ils regardent les gilets jaunes, bien entendu, ça bouillonne. Écoute,
le Brexit,
il y a eu un traité, le renouvellement d'un traité symbolique d'amitié franco-britannique, allemand, pardon.
Oui.
Et ça, c'est très important parce qu'ils ont approfondi la zone économique intégrée entre l'Allemagne et la France. Il y a une coopération militaire approfondie.
Toute l'histoire du Brexit.
Le Brexit qui est là-haut. Et puis, il y a neigé sur Paris.
C'est
la fin du monde.
Ils ont quelques centimètres. On est mal placé pour leur donner des leçons.
Ah non, mais à Paris...
La météo ici, là, c'est souvent le premier sujet de...
Oui, oui. Hein,
on s'entend qu'on en parle beaucoup.
Je t'explique ce qui fait la manchette là-bas.
Qu'est-ce qui fait la manchette?
C'est ça, c'est ce que je t'ai dit. Le rapprochement, le renouvellement du traité d'amitié franco-allemand...
Non, je sais, mais par rapport à la neige, là...
Ah, c'est la fin du monde. Parce que, écoute, il y a eu quelques centimètres de neige à Paris.
Ah non, mais ils capotent, là.
Oui, oui, tout ridicule que soit la neige à Paris pour nous.
Oui, je
sais. Eux, ils trouvent que c'est épouvantable, tout est bloqué. Bon, ils n'ont pas de pneus d'hiver,
ils sont pas équipés pour ça.
Ils ont pas les réflexes. Ils n'ont pas l'équipement, donc tout bloque.
Il faut les prendre en pitié un petit peu.
Oui, mais ils trouvent ça beau, par exemple.
Mais oui, c'est très beau.
Ça, c'est sûr que ça fait de belles images de Paris sous la neige. C'est un peu décevant quand tu viens, par contre, du Québec puis tu te retrouves avec la neige à Paris. C'est pas nécessairement ce que tu veux voir.
Non, c'est pas ça que tu veux voir.
Mais disons que, donc, en ce moment, si tu veux, ça marque vraiment la relation asymétrique entre le Québec et la France. C'est un marqueur de ça. Je pense qu'on est bien obligé de constater qu'il y a une perte de visibilité du Québec aussi progressive en France. Ce qui s'opère depuis plusieurs années.
Ben, en tout cas, Legault, lui, a été couvert par les médias
du
Québec.
Je pense qu'il fait un bon boulot.
Il fait un bon boulot là-bas.
Il nous représente bien, mais si veux, on ne dirige pas les médias
France. Qu'est-ce que
c'est
tu veux? On ne peut pas le faire à leur place.
Non.
Les personnes transgenres ne pourront pas devenir soldats dans l'armée américaine.
Où ceux qui sont devenus vont être obligés d'en sortir.
Ah oui?
C'est la nouvelle aux États-Unis qui fait la une un peu partout. Parce que la Cour suprême vient de décider, par 5-4, que de lever l'injonction que les cours inférieures avaient prononcée et qui interdisait, c'est un peu compliqué, mais qui interdisait à Trump de bloquer l'entrée des transgenres dans l'armée. Mais tu sais, Trump, c'est le président des États-Unis, donc c'est le commandant en chef de l'armée.
Donc Trump a interdit l'entrée des transgenres.
Il veut plus de transgenres dans l'armée.
Et la Cour suprême, par 5-4, a dit il a le droit
de faire ça.
Okay.
On va lever donc l'injonction qui interdisait à Trump de bloquer leur entrée, etc. Et Trump avait invoqué les coûts médicaux. En fait, ça coûterait 8 millions de dollars par année pour, si tu veux, la transition. Et ça concerne quand même plus de monde que ce que je pensais. Il y a 8980 personnes qui sont dans cette situation-là dans l'armée américaine.
8980 personnes transgenres dans l'armée américaine? Mm-hmm. Ça me semble beaucoup, non?
C'est le chiffre que j'ai trouvé.
Eh ben.
Moi aussi, ça me semble beaucoup, mais c'est comme ça.
Qu'est-ce que tu veux? La Cour suprême l'a décidé.
Mais c'est
la Cour
surtout
suprême
un symptôme
ouais.
donc, de cette Cour suprême conservatrice aux États-Unis qui prend ce genre de décision. C'est très serré, mais je pense qu'on va avoir de plus en plus de décisions qui vont aller dans le sens conservateur. Et je ne veux pas juger de la question des transgenres, du fond de la question. Je ne me sens pas vraiment compétent pour parler de ça.
Mais tu notes que la tendance conservatrice, comme on l'avait prévu lors de la nomination du dernier juge, allait finir par s'imposer. D'une certaine façon, c'est peut-être la première décision qui confirme ce qu'on avait dit.
Et qui fait en sorte que Trump peut faire passer plus facilement ses décisions.
Peut-être.
Il y a ça aussi.
Peut-être.
C'est pour ça qu'on en parle.
Très bien. Tu nous parlais de l'armée il y a un instant, l'armée américaine qui est encore présente en Afghanistan, où les talibans viennent de frapper,
très
mais
fort.
Alors là, très fort, ouais.
Ils viennent de détruire un complexe secret, en fait, qui est une base d'entraînement pour les milices pro-gouvernementales. Et ce qui est important, c'est que c'est à 30 kilomètres au sud de Kaboul, donc c'est tout proche de la capitale.
On va dire, les talibans, là, on leur a fait la guerre après l'attentat du 11 septembre 2001, oui. On leur a fait la guerre pour les sortir d'Afghanistan. Et c'est très clair que...
Ils reprennent le contrôle de
l'Afghanistan. Ils reprennent le contrôle du pays.
Écoute, juste pour en revenir sur cet attentat, il a fait quand même officiellement 43 morts et 54 blessés. Mais on est encore en train de sortir des corps, des décombres. On serait au moins à 70 morts. Il y en a qui disent peut-être plus d'une centaine. Donc, ça augmente énormément. Et quand on regarde les chiffres, ils sont épouvantables. Depuis 2015, on sait que les Américains ont commencé à se retirer en 2014, il y a eu 28 000 soldats et policiers afghans qui ont été tués en Afghanistan. Ça fait une moyenne de 20 par jour. Alors,
hein?
Oui, il y en a un peu moins chaque jour, mais les talibans contrôlent un peu plus de territoire afghan tous les jours aussi. Donc, c'est ce que je te fais, là, c'est la chronique d'une défaite annoncée en Afghanistan. Les zones contrôlées par les alliés en Afghanistan, les alliés des Américains, se réduisent énormément. Et tu vas voir bientôt ce qui va se produire, c'est que les Afghans qui ont collaboré avec les Américains vont chercher juste une chose, c'est à se sauver avec tout l'argent qu'ils ont réussi à accumuler. Et je suis très cynique à propos de ça parce qu'il y a eu énormément de corruption en Afghanistan. Une corruption qui a été encouragée par l'armée américaine parce qu'ils pensaient qu'ils arriveraient à corrompre les Afghans et les talibans avec l'argent.
Ils s'achèteraient en fait des
alors
appuis.
Alors que ça n'a pas du tout marché. Non, ce que ça a fait, c'est que ça a fait exactement l'inverse. Et ça, si tu veux, raffermi les convictions des talibans et ça a rapproché des gens des talibans.
Mais les États-Unis, Loïc, là... ne peuvent pas se permettre de voir les talibans reprendre le contrôle du gouvernement et de l'État parce
c'est
que
c'est
de cette base talibane qu'ont été lancés les attentats terroristes du 11 septembre.
Disons qu'ils ont protégé Al-Qaïda.
Mais hein?
Oui.
Ils ont protégé Ben Laden.
Et Ben Laden, et c'est pas fini. Mais, comme disait Trump, l'État islamique, c'est réglé. Et donc, il ne semble plus y avoir de problème dans la région. Donc, pourquoi est-ce que les Américains s'en iraient pas?
C'est
de l'ironie.
Oui, je sais que c'est de l'ironie. Parlons un petit peu, en terminant, de ce qui se passe au Japon, avec un peu d'humour,
nouvelle,
un petit sourire, en terminant.
Oui, il y a des gens qui vont être très déçus. Les dépanneurs au Japon vont cesser de vendre des magazines porno. Ça inclut les mangas, qui
c'est
sont
quoi,
des espèces de... ce sont des bandes dessinées en noir et blanc, le plus souvent japonaises. Et il y en a qui sont particulièrement érotiques ou pornographiques. Ça aussi, on va cesser de vendre ça.
C'est un gros marché, la porno, dans les dépanneurs japonais?
C'est un gros marché. Il paraît qu'il y a 8000 publications au Japon de ce genre. Et donc, on cesse de vendre ça, pas parce qu'on est devenu plus prude subitement. Le Japon est un des plus grands producteurs mondiaux de l'industrie pornographique. Non, c'est parce que, figure-toi, il y a la Coupe du monde de soccer qui arrive en septembre. Donc, on se donne jusqu'au mois d'août 2019 pour retirer ça du marché. Et il y a les Jeux olympiques qui arrivent aussi. Et donc, on veut présenter une figure, si tu veux, plus prude face
ouais.
au monde entier pour tous ces visiteurs qui vont affluer du monde entier.
Bon, ben écoute... Puis après ça, ça va reprendre.
Ben, bien entendu. Puis de toute façon, ça va continuer.
C'est ça qui va arriver.
Puis de toute façon, c'est dans les médias partout, puis en ligne, etc.
Ben, j'allais dire, tout à l'heure, quand tu me parlais de ça, je me suis dit, les dépanneurs, ils vont aller sur Internet, ils vont trouver. Ah, ben oui.
Sauver la face.
Ouais.
Donner l'impression qu'on fait des choses qui sont souhaitables pour certaines personnes.
Oui, éthiquement morales.
C'est ça.
Hein? Alors, juste pour te dire, on a une fidèle auditrice, Anne, qui vient de nous dire. Que le Figaro, qui vient de nous envoyer un article du Figaro, tiré d'une dépêche de l'agence France-Presse.
Oui, une dépêche.
Oui, voilà, mais le Québec veut doubler ses échanges commerciaux avec la France, publié dans le Figaro, mon cher Loïc. Alors, il y a une exception à 18h22.
Oui, ça vient de sortir. Moi, j'ai regardé ça donc avec le décalage. Quand j'ai regardé ça ce matin, il n'y avait rien encore.
Non, attends, 18h22.
T'enlèves 6 heures, ça veut dire...
Oui, non, mais c'était publié le 20. C'était publié le 20.
Ah, le 20!
Oui.
Donc, avant le
Oui, quand il est arrivé. Oui,
ouais.
c'est ça. Alors, juste pour te contredire...
Ça pas beaucoup, tu sais. C'est quand même curieux quand tu compares, évidemment, avec René Lévesque, dans le temps, Lucien Bouchard.
Ah, ben oui, mais là, c'était
même,
la question...
Même Jean Charest.
C'était la question de l'indépendance à ce moment-là.
Oui, mais même Jean Charest, on en parlait et tout. Et puis, maintenant, c'est plus exactement ce que c'était.
Alors, mon cher Loïc, je te remercie.
Je t'en prie.
Et là, on va parler après la pause de l'éjaculation précoce. Il y a des journées, qu'est-ce que tu veux comme ça, là? Il y a des sujets. Mais vous savez, ça peut être un vrai problème. Hein? Alors là, il paraît qu'il y a des exercices qu'on peut faire pour essayer de la maîtriser, de se redonner un peu de vigueur. En tout cas, il y a un livre qui est paru là-dessus. Et là, on va aller consulter Sylvie Lavallée, notre sexologue, vers laquelle on se tourne parfois avec ce genre de problématiques. Et on va voir un peu ce qu'elle pense donc de cet ouvrage. Et puis, est-ce que c'est vrai qu'il y a des exercices qu'on peut faire à un moment donné là pour lutter contre l'éjaculation précoce? C'est comme ça.